Soyez au cœur de l'info sur VTV.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Sporama. Bienvenue aussi à nos auditeurs fidèles sur VOA Afrique, ceux qui nous suivent sur Internet bien évidemment. Au sommet ce soir, le coup d'envoi de la première édition de la Ligue des champions féminines en Afrique. Huit clubs à l'assaut d'un trophée qui se dispute au Caire en Égypte. Et puis, Aremu Manzourou rempile pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la Confédération africaine de handball. On retrouve nos consultants pour décortiquer et analyser tout ceci de Columbus dans l'Ohio. Ahmedine Sy, bonsoir Ahmedine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amine Birouk nous rejoint depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, il est de retour parmi nous, Valdo Simon Yamba Yamba du côté de Kinshasa en RDC. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. Heureux de vous retrouver.
Enfin, on aura depuis Cotonou au Bénin notre confrère Epiphane Axel Boyanro d'Ado TV. Sporama, c'est parti. En direct dans ce studio avec moi, Lawal Dine Kosuro. Bonsoir Lawal.
Bien à vous, Élisée. Bonsoir.
Football à la une avec la première Ligue des champions féminines de la CAF. La compétition qui réunit 8 clubs se déroule actuellement en Égypte et la poule A en est déjà à sa deuxième journée. Après le faux pas d'ouverture contre les Ghanéennes d'Asakas Lady, Malabo King s'est repris en dominant Wadi Degla, club du pays hôte, sur le score de 3-0. Valdo, belle réaction des Équato-Guinéennes.
Belle réaction et surtout grosse performance qui permet aux Équato-Guinéens de remonter au classement en occupant la deuxième place de leur groupe avec désormais 3 points en 2 sorties ex-aequo avec Wadi. Avec cette performance, le représentant de la zone UNIFAC s'est remis dans la course et peut nourrir l'ambition d'aller le plus loin possible. Et cela passe par une victoire lors de la troisième et dernière journée de la phase des groupes contre Mandé le 11 novembre prochain.
Dans la poule B, belle entrée des Marocaines de l'ASFA, net vainqueur 3-0 des Nigeria de Rivers Angle. Amine, c'est une démonstration des filles militaires qui lancent déjà le signal.
Et certain, c'est qu'elles ne sont pas venues pour faire du tourisme en Égypte, elles sont venues pour aller le plus loin possible dans la compétition. Pour leur entame, les joueuses de l'ASFA ont respecté des consignes de prudence, notamment pendant la première partie du match, où elles ont failli encaisser un but d'entrée sur une frappe d'une joueuse nigériane sur la barre transversale. Ce sera d'ailleurs la seule occasion dangereuse de Rivers pendant cette première période, puisque les joueuses de l'ASFAR ont grignoté petit à petit du terrain et se sont permis le luxe d'ouvrir le score à la 30e minute de jeu par Sana Massoudi suite à un superbe exploit individuel. Cette même Sana Massoudi va devenir l'héroïne de cette rencontre, inscrivant 2 buts supplémentaires en fin de seconde période et donnant une toute autre ampleur à cette victoire de l'ASFAR, qui devra maintenant essayer de gérer le deuxième match face aux champions du Kenya. Une autre victoire des champions d'Afrique du Nord supposerait une qualification pour les demi-finales avant la troisième rencontre contre les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns.
Première sortie réussie aussi pour les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns qui ont battu 1-0 les Kenyans de Vihiga Queens. Lawal, un moment historique pour le football africain avec cette première compétition des clubs au niveau des dames.
On l'attendait depuis des lustres, c'est arrivé enfin et ça permettra fondamentalement de relancer le foot féminin en Afrique et la Confédération africaine de football qui a compris qu'il faut miser également sur cette discipline au féminin a bien fait de le faire. Maintenant, on a beau bien démarrer et il ne faut pas que les démons de l'imprécision reviennent encore tout chambouler. On espère qu'ils vont mettre le cap, maintenir le cap afin que les filles puissent nous faire rêver tout comme les garçons l'ont fait pendant longtemps.
Et ce qui a rapidement attiré notre attention, c'est 2 pays de football féminin qui voient leur corps peiner, le Nigeria et la Guinée équatoriale.
Il faut vous dire que la compétition est maintenant nivelée. Le nivellement se fait maintenant par l'euro et il n'y a plus de petits clubs, il n'y a plus de petits pays par rapport au foot et surtout que les gens découvrent pour la première fois cette compétition, les filles vont se donner à fond pour montrer qu'elles existent elles aussi. Et puis, elles sont surprises, on espère qu'elles vont se reprendre et offrir un beau spectacle à tous ceux qui seront au stade pour les voir jouer.
On enchaîne avec les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Les 5e et 6e journées se déroulent du 11 au 16 novembre prochain. À l'issue de ces 6 jours et des 40 matchs prévus, on connaîtra les 10 pays en lice pour l'ultime tour de qualification prévu en mars. 2 sont déjà allés au Sénégal et au Maroc. Reste encore 8 tickets à prendre. Et ça peut déjà aller lors de la 5e journée à la Tunisie et l'Égypte qui se rendront respectivement en Guinée équatoriale et en Angola. Amine, les aides de Carthage et les pharaons y sont presque.
De Félizie, les Tunisiens et les Égyptiens ont la possibilité dès la 5e journée de composter leur ticket pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et ce qui est certain, c'est que les aides de Carthage ont été impressionnants depuis le début de ces éliminatoires. On les a vus gagner en Zambie, on les a vus pousser les Mauritaniens dans leur dernier retranchement. Et on les avait vus aussi battre le rival de la Guinée équatoriale au match aller à Tunis. Donc probablement que les Tunisiens n'auront besoin que d'un match nul pour pouvoir s'assurer la première place. Il va falloir tout de même se montrer vigilant face à une équipe de Guinée équatoriale en très gros progrès. Concernant l'équipe égyptienne, il n'y a pas lieu de douter par rapport au potentiel offensif de cette équipe qui sera composée d'une ossature Ali Zamalek, des joueurs impressionnants, des joueurs qui ont réussi à damer le pion à la Libye, qui était un peu le trouble fait du groupe en les battant en aller-retour. Ça ne devrait pas poser de problème face au Gabon et à l'Angola. A priori, tout est fait pour que l'Égypte et la Tunisie se retrouvent en barrage.
Autre sélection bien placée, le Mali dans le groupe E. Les Aigles se rendront au Rwanda avant de finir à domicile contre l'Ouganda, tout comme l'Afrique du Sud qui peut déjà valider sa qualification jeudi face au Zimbabwe afin de ne pas être sous pression au Ghana lors de la dernière journée pour ce qu'on peut appeler la finale de ce groupe G. Epiphane, les Bafana Bafana ont leur destin en main.
Je crois que ces deux dernières journées seront très suivies parce qu'il y aura des matchs importants. Vous l'avez dit, il n'y a que deux nations qui ont déjà décroché leur ticket, le Sénégal, le Maroc. Il faudra maintenant chercher à avoir les 8 derniers tickets. Et il y a des nations qui sont très bien placées, qui pourraient bien passer. Vous avez parlé surtout de ce duel dans le groupe G entre le Ghana et l'Afrique du Sud. C'est un duel très attendu. Et c'est vrai que le Ghana, sur ces dernières années, a pris le dessus quand on parle de qualification au mondial de la Coupe du Monde. Mais l'Afrique du Sud est très bien placée. Elle peut espérer passer. Et vous avez évoqué cette finale lors de la dernière journée. Et ça sera tendu jusqu'à la fin. De toutes les façons, à l'issue de ces qualifications, il faudra avoir les 6 nations représentatives véritablement donc de l'Afrique pour participer à cette Coupe du Monde prévue au Qatar en 2022.
Amédine, le Nigeria aussi a son destin en main avec 2 points d'avance sur le Cap-Vert qu'il va recevoir lors de la dernière journée. Mais avant, il doit éviter le piège du Libéria à Mouroudia.
Oui, Élisée, le Nigeria a son destin en main car les Nigérians sont leaders de la poule C avec 9 points contre 7 pour le Cap-Vert. Ça, c'est Élisée que la rencontre entre les Super Eagles du Nigeria et les Requins Bleus du Cap-Vert comptant pour la 6e et dernière journée sera une sorte de finale pour ces deux formations. Mais Osimhen et ses partenaires doivent d'abord éviter le match piège qu'ils vont disputer contre le Libéria. Ce sera à Tanger car le stade Samuel Doe de Mouroudia a été suspendu. Les Nigérians qui avaient perdu à domicile face à la Centrafrique sont donc avertis car une qualification passe d'abord par un bon résultat face au Libéria. Donc le Nigéria doit d'abord négocier, le Nigéria doit d'abord bien négocier le match contre le Nigéria avant de jouer sa finale contre le Cap-Vert et l'Élysée.
Ce qui est certain, on aura une finale alléchante dans le groupe A, Algérie, Burkina Faso, Ablida. Amine, une rencontre qui promet vu la prestation des deux équipes lors du match aller.
touchant sur le plan sportif, mais également sur le plan extra-sportif. Pour les amateurs de sensations fortes, on se rappelle qu'en 2014, le Burkina Faso avait frôlé la qualification pour le mondial. Il avait été éliminé par l'Algérie après un barrage houleux, un barrage retour houleux à Blida. Et d'ailleurs, les Burkinabés n'ont pas la mémoire courte. Ils ont déjà envoyé une missive à la Confédération africaine de football pour réclamer un maximum d'attention par rapport à cette rencontre. Il est vrai qu'il y a 7 ans exactement, toutes les difficultés avaient été posées aux étalons sur le plan extrasportif pour nuire à leur concentration avant la rencontre. A priori, sur le plan sportif, l'Algérie part favorite. L'Algérie s'est montrée impressionnante tout au long de ce tour qualificatif. Il y a eu un petit couac à Marrakech face au Burkina Faso avec ce match 1-1 partout. C'est peut-être un signe d'espoir pour les étalons qui vont devoir braver les éléments, c'est-à-dire le contexte du match à Blida, la capacité de cette équipe d'Algérie. Pourront-ils se surpasser? Il y a un petit doute, car l'Algérie est aujourd'hui championne d'Afrique en titre.
Une autre finale très attendue à Yaoundé. Côte d'Ivoire, leader du groupe D contre son dauphin, le Cameroun. Un seul point sépare les deux équipes, mais en attendant Laval, éléphants et lions indomptables doivent impérativement régler l'équation Mozambique et Malawi.
Oui, Élisée, c'est là le grand piège. C'est le grand piège qui attend les deux équipes. Et si les deux, qui sont les cadors de ce groupe, ne se mettent pas en tête qu'ils doivent forcément, impérativement régler ce problème-là, parce que s'ils croient qu'ils sont déjà leaders qui regardent les autres d'en haut, comme beaucoup le feraient, là ils seront surpris de voir ces petites équipes-là leur créer des soucis. L'essentiel pour l'un ou l'autre, c'est de ne pas faire de faux pas avant donc cette grosse finale de ce groupe, parce que là, ça se joue à Yaoundé, ça va être très très difficile pour les Ivoiriens.
Les Camerounais n'ont pas oublié la défaite du match aller
dans le champ de patates, il faut le rappeler. Donc le piège est forcément à éviter pour les Camerounais et les Ivoiriens.
Et c'est toujours disputé dans la poule J où 3 équipes peuvent toujours finir à la première place. La Tanzanie et la RD Congo qui s'affrontent d'ailleurs à Dar es Salaam. Valdo, un match de tous les dangers pour les Léopards.
Match de tous les dangers, comme vous l'avez si bien dit, Élisée, puisque défaite interdite pour le Léopard de la RDC, 3e avec 5 points à 2 unités derrière les leaders du groupe J, la Tanzanie, qui joue à domicile. Les Léopards de la RDC n'ont donc qu'un point sur 6 après 2 matchs en déplacement, un nul et une défaite. Cette 3e et dernière rencontre en déplacement est donc l'occasion pour les hommes des Coupeurs de tenter d'obtenir l'unique victoire en déplacement au terme de cette phase des groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde. Un véritable défi pour les sélectionneurs argentins qui a publié une liste de 26 joueurs avec seulement 2 joueurs évoluant au championnat de la RDC, Hervé Lomboto et Arsène Zola. Certains parmi ces joueurs n'ont pas assez de temps de jeu avant d'affronter la Tanzanie. C'est ce qui suscite l'inquiétude côté Léopard de la RDC.
En bonne position aussi, le Bénin reçoit Cotonou Madagascar. On revient vers vous, Epiphane. 6 points sont en jeu pour Michel Dussuyer qui, contre toute attente, a rappelé Jodel Dossou.
Je crois que le Bénin doit déjà remporter les 3 points contre Madagascar pour espérer et pourquoi pas se qualifier pour ce prochain tour. Sinon, vous savez qu'il y a une finale attendue du côté de Kinshasa parce que le stade de Kinshasa a été homologué finalement par la Confédération africaine de football. Et donc la RD Congo, la République démocratique du Congo, va accueillir ce match à Kinshasa. Et donc, le Bénin qui comptera sur Jodel Dossou, dont on attend les nouvelles, il a été rappelé par Michel Dussuyer à la surprise générale. Michel Dussuyer qui estime lui avoir tendu la main et donc à lui de la saisir. On verra bien comment tout ceci va se passer. De toutes les façons, Michel Dussuyer, il faudra déjà avoir de son côté un bon groupe, un groupe homogène avec moins de problèmes à l'interne, parce qu'on sait qu'il y a eu des soucis avec Jodel Dossou. Il faudra régler ces petits soucis, avoir un groupe solide, et c'est déjà important d'obtenir les 3 points à Cotonou, et ça c'est très important. Malheureusement, il y a quelques blessés, on a parlé de Cédric Montondi qui est touché, qui ne pourra pas être présent, Cédric Soukou touché par le Covid, et donc ça sera compliqué en tout cas ce match contre les Baréa à Cotonou.
Sport demain.
terminer à présent avec la Basketball Africa League, la nouvelle compétition continentale masculine des clubs lancée l'an dernier avec le soutien de la NBA. La première phase des qualifications pour la deuxième édition qui aura lieu en 2022 s'est jouée dans deux zones nommées divisions et on connaît désormais les 16 équipes qualifiées pour la seconde phase. À l'ouest dans la poule A, nous avons les Guinéens de Slack et les Maliens de l'AS Police. Poule B, SOA de la Côte d'Ivoire, Nigelec du Niger et Aspac du Bénin. Epiphane, le club portugais qui a fini meilleur troisième des groupes, n'a pas trop convaincu lors de cette première phase.
Ah oui, c'est une compétition importante sur le continent désormais. Je pense que le niveau est élevé, ça on le sait sur le continent. Il faudra continuer à travailler pour toucher les sommets, c'est pas facile et c'est compliqué. On sait qu'il y a de grosses nations de basketball sur le continent, le Sénégal, l'Égypte, il y a quelques grosses nations qui existent, l'Angola, le Bénin sans doute la possibilité de s'en sortir s'il parvient à placer évidemment ces bons éléments, à faire de bons matchs, notamment avec cette équipe de l'ASPAC. Et c'est une équipe à suivre, évidemment. C'est vrai que le niveau est encore faible du côté du Bénin, mais il faut y travailler. C'est en se frottant au meilleur qu'on parvient à grandir sur le continent.
Au niveau du groupe C, sont qualifiés les FAB de Yaoundé, Tondouma de N'Djamena et Espoir de Kinshasa. Valdo, un tout autre niveau pour le club de Kinshasa. Seul représentant congolais a cédé au second tour après le forfait du TP Mazembe.
Élisée, un niveau qui exige au club de la RDC de justifier le pourquoi de sa présence à cette deuxième fenêtre de l'African Basketball League. Espoir Foucage est en pleine ascension puisqu'a créé il y a seulement deux années le club quinois s'est offert le titre national de la RDC en battant l'ogre SCTP au terme d'une finale qu'il a pratiquement dominée 59-48 et c'est avec la même forme que Foucage s'est amené à cette fenêtre au terme de laquelle il a obtenu son titre avec comme bilan une écrasante victoire 102-49 sur Tondema de la République centrafricaine et une défaite face à FAP du Cameroun 65-84. Espoir Foucage se veut être le premier club de la RDC à s'inviter à la phase finale de l'African Basketball League l'année prochaine, puisque ayant réuni un groupe très homogène et ambitieux.
Dans la division S, les tickets de la poule D sont allés aux Burundais de New Star, au Kenya, Dulenzi Warriors et au Sud-Soudanais de Cobra Sport. Ceux du groupe E ont été obtenus par les Ougandais de City Oilers et les Tanzaniens de Kurasini Hunter. Enfin, dans la poule F, Cape Town Tiger d'Afrique du Sud, Ferroviaro de Mozambique et Matero Magic de la Zambie. Amin Birouk, exempté du premier tour, la SALE, quart de finaliste l'an dernier, participera à cette seconde phase dénommée Elite 16.
Pour souligner la réussite de la première édition qui a été organisée sous l'égide de la NBA à Kigali, aujourd'hui on repart sur un format quelque peu différent avec des qualifications et un tour final. Et visiblement, l'AS Salé, quart de finaliste lors de la précédente édition, n'a pas été invité et donc exempté de tour qualificatif. Elle devra donc tirer son épingle du jeu lors de ce tour qualificatif. L'équipe vient à peine de reprendre l'entraînement. On verra dans quelle mesure elle dressera son plan de préparation pour atteindre un pic de forme au moment de ce tour qualificatif. Quels seront les recrutements, et notamment de joueurs américains, parce que c'est la plus-value dans ce genre de compétition. Visiblement, l'appétit venu en mangeant, la SALE a découvert les lustres de cette compétition made in NBA et n'a pas l'intention de renoncer à ses chances de qualification. A priori, pour le tour final, on retrouvera les mêmes équipes et on verra si SALE est convié à ce festin.
A noter que les 16 équipes seront reparties en deux groupes de 8 et les 3 premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale de cette compétition qui sera à sa deuxième édition. 16 équipes rejoindront les champions du Nigeria, de la Tunisie, de l'Angola, de l'Égypte, du Rwanda et du Sénégal. Amédine, belle progression pour le basketball local sénégalais qui fait partie du top 6 en Afrique.
Tout à fait, Élisée, le Dakar University Club qui a remporté le championnat du Sénégal fait partie des 6 équipes qualifiées d'office pour la dernière phase de la deuxième édition de la Basket African League. Cela prouve que le basket local au Sénégal se porte bien, malgré les résultats en dehors de ses représentants. car sur le plan international, le Sénégal ne parvient pas à tirer son épingle de jeu au niveau des clubs. Mais ça, c'est évident que le Sénégal reste un pays de basket pour avoir remporté 12 titres de champion en dames et 5 titres chez les hommes. Mais le problème, c'est en club, car il faut remonter très longtemps pour voir le Dick chez les dames qui avaient remporté le championnat d'Afrique en 98 et la soie. C'était, et la police, c'était dans les années 74-75. Donc, les représentants sénégalais doivent quand même se battre pour remporter cette deuxième édition de la BAL Élysée.
La BAL, cette compétition prend véritablement de l'ampleur sur le continent.
Oui, c'est heureux pour les basketteurs africains de voir une telle compétition soutenue de cette façon-là par la NBA, la crème même du basket mondial. C'est déjà heureux. Et qu'on ait réussi la première édition au Rwanda et qu'on revienne pour la seconde qui se prépare déjà assez bien. C'est bien heureux. On espère que les nouveaux qui sont dans cette compétition vont faire sensation afin d'offrir un spectacle XXL à ceux qui viendront au stade pour regarder les équipes évoluer. J'ai un clin d'œil pour mes amis du Bénin, les portugais du Bénin. On espère qu'ils vont faire mieux que ce qu'ils ont fait au tout précédent et faire rêver
pour
la phase finale, ce qui ferait
une première
pour le pays, parce que là, il faut le dire, au niveau du foot, ils font des efforts énorme pour montrer qu'ils sont là au niveau des autres disciplines également. La pétanque, on connaît le Bénin, mais au niveau du basket, si la SPAC peut déjà aider, faire l'effort de se qualifier pour le tour suivant, ça fera un coup de com' pour ce pays-là qu'on aime bien.
Et merci Lawal.
C'est moi, Élisée.
Handball, pour clore cette émission, et Aremu Manzourou a été reconduit à la tête de la Confédération africaine pour un nouveau mandat de 4 ans à l'issue d'une assemblée générale élective qui a eu lieu par vidéoconférence. Epiphane, seul candidat au poste de président, le Béninois a été plébiscité par ses pairs.
Oui, Manzourou Aremu, c'est un phénix sur le continent. C'est un monsieur qui a beaucoup apporté à cette discipline. Son parcours est élogieux, on le sait. Au Bénin, il a prouvé en étant président de la Fédération béninoise de handball. Je pense que c'est logique qu'il règne sur le handball africain. Et si ses pairs, si les délégués lui ont accordé la possibilité de poursuivre ce rêve qu'il a entamé il y a quelques années, je pense que c'est de bon augure pour le Bénin et qui peut se targuer d'avoir placé un digne fils à cette position. Sous son leadership, la CAB, la Confédération africaine de handball, connaît une certaine évolution, une certaine progression dans l'organisation des compétitions. On sent qu'il y a quand même du mieux, mais il faut continuer à bosser, il faut continuer à travailler. Et donc on espère que Manzourou Aremu va poursuivre son chemin et ça se passera très bien pour lui les 4 prochaines années.
Amédine, le défi sera maintenant de faire parler le handball africain qui peine au niveau mondial.
Oui, Élisée, le défi du président de la Confédération africaine de handball sera sans aucun doute de hisser le handball africain au niveau mondial. Comme vous le savez, Manzourou a été porté à la tête de cette confédération depuis en 2008. Cela veut dire tout simplement, Élisée, qu'il vient d'être élu pour la 4e fois consécutive. Cerise sur le gâteau, il a été réélu à l'unanimité, de même que tous les membres du bureau sortant. Ce plébiscite fait au président béninois doit le pousser à se battre, Élisée, pour hisser le handball africain au niveau mondial, car les sélections africaines n'arrivent toujours pas à rivaliser d'ardeur avec la crème du handball mondial, Élisée.
Valdo, à part l'Égypte, chez les hommes, il reste à faire, surtout au niveau des dames, où le niveau est très bas.
Élisée, un chantier qui nécessite une véritable autopsie sur les vrais problèmes à la base de cette faiblesse au niveau mondial. Et qu'il qu'est dans l'ensemble, le handball africain est loin de faire les poids. Les patrons du handball africain relient à donc la lourde tâche de travailler sur ces chantiers chez les messieurs. Comme vous l'avez dit, l'Égypte fait la différence mais d'autres nations doivent également suivre cette dynamique question d'aller le plus loin possible au niveau mondial et améliorer les classements. Chez les dames, les chantiers restent profonds malgré son efficacité sur le continent. L'Angola est loin de s'affirmer une fois en face du niveau mondial. Il faut donc à Monzourou faire un diagnostic sur cette faiblesse afin que ce nouveau mandat soit celui qui va lui permettre de relever les défis au niveau mondial.
Merci Valdo. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro. Sporama, c'est fini. Merci de l'avoir suivi un peu partout sur le continent. Au revoir.